Pierre Michon, Les Onze. Vous les voyez, monsieur, tous les onze, de gauche à droite, Billot, Carnot, Prieur, Prieur, Couthon, Robespierre, Collot, Barère, Lindet, Saint-Just, Saint-André. Invariables et droits, les commissaires, le grand comité de la grande terreur, 4,30 mètres sur 3, un peu moins de 3, le tableau de ventouse, le tableau si improbable, qui avait tout pour ne pas être, qui aurait si bien pu, dû ne pas être, que planté devant, on se prend à frémir qu'il n'eût pas été, on mesure la chance extraordinaire de l'histoire et celle de Corentin. On frémit comme si on était soi-même dans la poche de la chance. Le tableau, peint de la main de la Providence, ainsi qu'on aurait dit 100 ans plus tôt, ainsi que Robespierre le disait encore chez la mère Duplay, comme s'il eût été dans Port-Royal. Le tableau fait d'homme, dans cette époque où les tableaux étaient faits de vertu. Le très simple tableau, sans l'ombre d'une complication abstraite. Le tableau, que commandèrent sur un coup de tête et peut-être dont l'ivresse les enragés de l'hôtel de ville, la commune, les féroces enfants à grande pique, les tribuns limousins. Le tableau, dont Robespierre ne voulait à aucun prix, dont les autres ne voulaient guère, dont peut-être 10 sur 11 ne voulaient. Sommes-nous des tyrans pour que nos images soient idolâtrées dans le palais exécré des tyrans? Mais qui fut commandé, payé et fait. Parce que Robespierre même craignait l'hôtel de ville. Parce que l'histoire, à sa ceinture, porte une poche de chance, une bourse spéciale pour la solde des choses impossibles. Vous les voyez? On a du mal à les saisir tous à la fois dans le même regard maintenant, avec ces reflets sur la vitre derrière quoi on les a mis au Louvre. À l'épreuve des balles, à l'épreuve des souffles des 10 000 hommes de toute la terre qui les voient chaque jour. Mais ils sont là, invariables, ces trois. À quoi pensez-vous, monsieur, devant la grande vitre? Le reflet derrière quoi il y a des figures levées qui regardent vers vous. Peut-être ce que vous pensez, c'est ceci. Il y a derrière la marche, derrière la vitre, 11 apparences de Corentin de la Marche. 11 fois Corentin de la Marche. 11 fois le père et sa vocation. Son alibi. 11 fois la main à plume, l'auteur, mais l'auteur incertain, égaré, limousin. Des rejetons égarés de la littérature une et indivisible, tous, car ils aimaient la gloire, l'idée de la gloire plus que tout, leur présence derrière la vitre en fait foi. Et la pure gloire, en ce temps, vous venez par la littérature, qui était le métier d'homme. Prenez-les une à une, les grandes figures levées, les figures qui eussent bien préféré être invariablement levées à la face de l'histoire en tant qu'auteur plutôt que commissaire, mais qui sont levées tout de même, et flagrantes, par ce détour inattendu. Et ils sont surpris, peut-être, que la gloire leur soit venue par ce biais. Surpris que le métier d'homme soit commissaire et non pas auteur. De gauche à droite, donc, les auteurs au nombre de 11. Billot Varenne, ci-devant de Varenne, comme Corentin était de la Marche, que les sans-culottes appelaient le Roussin d'Arcadie à cause de son poil carotte, notes et de son goût pour Anacréon. Billot, qui fit Morgan, opéra. Polycrate, opéra. Qui, sous sa perruque rousse au Louvre, a peut-être souvenir aussi d'avoir fait, pour commencer, dans ses petits débuts à La Rochelle, une femme comme il n'y en a plus, comédie. Oui, sous la perruque de feu au Louvre, c'est à cette comédie légère qu'il pense, ce sont ses vers badins qu'il se dit. Et une fois de plus, sous sa sérieuse figure, il est stupéfait que ses pièces n'aient pas eu le moindre écho, soient tombées sans intermédiaire de sa main dans le gouffre. Allez, monsieur, poursuivez. Carnot, qui fut de la Société poétique des Rossati d'Arras avec Robespierre, et dans cette concurrence de jeunes poètes aux Rossati, commença à aimer et haïr Robespierre, qui eut sa première célébrité pour des églogues à Bacchus, à Libère, à Pomone, les petits dieux romains, qui n'avait pas vraiment pour vocation d'ensanglanter l'Europe, de hacher au canon les sapinières du Nord, les chênaies du Bocage, de placer les généraux de 14 armées devant la très simple alternative de la victoire ou du couperet, mais de se promener l'après-midi, l'été, dans de grands jardins, sous la fraîcheur des feuilles, avec sous son bras son petit calepin, d'y convoquer les êtres de fraîcheur, Bacchus, Libère, pour que Bacchus et Libère consacrent dans la langue des dieux sur le petit calepin l'immortalité de Carnot, qui est connu pour le reste. Le couperet, le canon, pas Libère. Sous le même reflet de la vitre, à côté de Carnot, prieur, officier et poète élégiaque sans audience à Mâcon, et prieur, l'autre, avocat et poète épique sans audience à Chalon. Puis l'éclat jaune, la chaise, qui jamais n'a rien écrit. Au beau milieu de l'éclat jaune, Couthon, dont on a un drame plein de sensibilité et de larmes, larmes et sensibilité prodiguées pour rien dans la noire Clermont d'Auvergne pour des publics de basalte. Sur sa chaise de couleur citron au Louvre, au cœur du tableau, sur sa chaise de paralytique, citrine, soufrée, solaire, avec des larmes, il se redit la chute noire de son drame parmi les éboulis de basalte. Robespierre, qu'on ne commente pas. Collot. Ah, monsieur Collot, qu'on peut commenter jusqu'à demain, qui était d'Herbois, comme Corentin était de la Marche, qui fut homme de théâtre, comédien, dramaturge, quelque chose comme un second Molière, qui écrivit 50 pièces qui se vendaient bien et se jouaient bien, mais tombaient directement de sa main dans le gouffre, qui buvait comme quatre pour faire venir le verbe et ne pas trop voir que son verbe à lui tombait droit de sa main dans le gouffre, qui traduisit Shakespeare et le joua en costume sur une scène exiguë avant de le jouer pour de bon sur la scène de l'univers, c'est-à-dire à Lyon en novembre dans la plaine des Brotteaux, où sur ses ordres on amenait devant des fosses ouvertes des hommes attachés par 10, par 100, et à 10 mètres de ces hommes il y avait des bouches de canons chargées à mitraille, 9 canons de marine montés de Toulon par le fleuve, 9 canonniers au garde-à-vous la mèche allumée dans novembre, et Collot était là, non pas en fraise élisabéthaine, mais avec le chapeau à la nation, l'écharpe à la nation, debout, shakespearien, mélancolique, hagard, limousin, peut-être ivre, avec son bras levé, avec son sabre au bout, comme une baguette de maestro pour commander le feu, et quand Collot baissait le bras, le monde disparaissait au profit de l'émoi de 9 canons de marine. C'est plus fort, cela, monsieur. Plus fort et enivrant, et peut-être plus littéraire même, que toutes les répliques de Shakespeare. On le sent dans le secret de son cœur, malgré qu'on en ait. Collot, donc, bon shakespearien, comme il le prouva abondamment quand il fit Macbeth dans la plaine des Brotteaux, et qui, assurément, au Louvre, dedans son col ouvert, son habit noir à collet triple, sa chemise blanche à collet double ouvert, et par là-dessus sa capote noire impeccable comme le manteau de la reine de la nuit dans Mozart, penche pour l'éternité à ce grand premier rôle. Et les autres, pour en finir, Barrère, du temps qu'il était Barrère de Vieuxac, comme Corentin le père était de la Marche, il fit un éloge de Louis XII, qui était peut-être l'œuvre de sa vie et qui fut couronné d'un épi aux Jeux floraux de Toulouse, c'est-à-dire un prix de consolation, un accessite. Vous imaginez cela, monsieur, un accessite pour l'œuvre de sa vie? Il s'occupait des arts au comité et quelqu'un lui donna le nom merveilleux d'Anacréon de la guillotine. L'un des, il eut une correspondance littéraire. Saint-Just, il fit Organ, poème de mille vers. À 18 ans, un Rimbaud à la nation. Et Saint-André, Jambon Saint-André, dont je ne me souviens d'aucune ambition littéraire, car il faut bien que l'exception confirme la règle. À tout cela, monsieur, que ce soit des auteurs, c'est-à-dire des hommes des Lumières, de puissantes machines à augmenter le bonheur des hommes tout en augmentant leur propre gloire, mais des auteurs à la façon limousine, de puissantes machines détraquées, des veufs de la gloire littéraire, que sais-je encore. Tout cela est du ressort de la petite antichambre. Tout cela est marqué sur les pense-bêtes. Cela ne se voit pas sur le tableau. Car c'est un bon tableau. Pas de plume d'oie ni de muse, pas de front pensif, pas d'intériorité intempestive. Mais je me plais à croire, moi, que Corentin y a mis son père 11 fois, comme il y a mis 11 fois, diversement et miraculeusement, tout ce qui était sa vie, son amour et son exécration, son pardon. Et bien sûr, il y a mis aussi 11 fois la revanche irréelle de son père, la défaite réelle de son père, debout. Voyez comme les reflets changent sur la vitre quand on se déplace un peu. Comme je vois clairement l'habit noir de Couthon, soudain, sur sa chaise d'or acide. Non, pas de l'or, du soufre. L'or est pour Saint-Just. Et si je fais 2 pas, quel luxe sur les franges espagnoles de l'écharpe aux 3 couleurs du représentant Saint-André à l'autre bout. 2 pas encore et tout est sombre. Que regarde-t-il là-dessous, monsieur? Quelle revanche? Quelle défaite?
Libé, Labo,